travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Dans les fiches d'accord parfait là que j'ai sous les yeux, je vois que mademoiselle Brigitte préfère les roses, les pivoines et les fleurs des champs et que monsieur Alain a comme passe-temps favori la lecture.
Il faut être tout de même assez différent si les êtres sont semblables. Leur union manque de richesse.
Eh bien, je vous remercie monsieur et souhaitons que grâce à l'orientation nuptiale, Brigitte et Alain soient heureux et aient beaucoup d'enfants.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour.
Comme en témoigne une belle image diffusée sur la toile, la prestigieuse salle Louis-Liard à la Sorbonne vient d'accueillir la soutenance de la thèse que Claire-Lise Gaillard présentait ces jours-ci à un jury éclairé afin d'être adoubée docteur en histoire. Or, il se trouve que son sujet m'a paru assez stimulant pour que je vous fasse profiter de sa jeune compétence avant même d'attendre que son travail ne paraisse en librairie. Il s'agit en l'occurrence de considérer la continuité que dessine notre auteur à partir de recherches sagaces entre les agences matrimoniales du XIXe siècle et les sites de rencontres qui prolifèrent aujourd'hui tout autant que leurs ancêtres d'autrefois. On s'aperçoit que l'étude de cette activité particulière peut nous dire beaucoup de choses sur les moments successifs des stratégies familiales, notamment bourgeoises, des aspirations individuelles, des lucidités et des hypocrisies. Il s'agit d'une marchandisation de l'intime, d'une commercialisation de la vie privée qui renvoie tout droit aux équilibres d'une société variable selon les classes, selon les professions, selon la géographie urbaine ou rurale, des comportements et des aspirations. Il s'agit de l'idée qu'on s'est faite du mariage de génération en génération. La littérature s'en est emparée, souvent avec ironie, parfois avec tendresse, dans les romans et au théâtre. Le vaudeville y a trouvé de l'inspiration. Les tribunaux, quand ils furent saisis de la légitimité de cette activité à l'occasion des dérives des escrocs et des proxénètes, montrèrent fréquemment de l'embarras, un embarras lui-même révélateur de diverses ambivalences. La politique aussi s'en mêla lorsqu'il apparut que le souci récurrent de la dépopulation pouvait conduire à encourager des mariages féconds en enfants par tous les moyens, y compris celui-ci, qui va nous occuper ce matin. Et d'abord, Molière déjà, dans l'Avare, avec la figure de Frosine, l'entremetteuse, auprès d'Harpagon.
Comment va notre affaire?
Faut-il le demander? Et me voit-on me mêler de rien dont je ne vienne à bout? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de partie au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Et je crois, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le grand Turc avec la République de Venise. Il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère le dessein que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à la fenêtre.
Qui a fait réponse?
Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assista ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela.
Mais, Frosine... As-tu entretenu la mère, touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cédât un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Et car encore n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose?
Comment? Mais c'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien, dont vous serez le maître.
Il faudra voir cela. Mais, Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne recherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût et que cela ne vienne à produire chez moi, certain petit désordre qui ne m'accommoderait pas.
Oh, vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens. Il n'a de l'amour que pour les vieillards.
Cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes gens.
Claire-Lise Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé, je vous ai offert un extrait de L'Avare de Molière qui remonte à 1668 et qui propose un dialogue entre Frosine, l'entremetteuse, et qui est interprété ici par André de Chauvron et Harpagon. Qui est interprété par Jean Meyer. C'est une archive de la RTF du 2 mars 1953. J'ai pensé que nous ferions là écho très directement au titre de votre ouvrage, « Célibataire, épouserai jeune fille avec dot ».
Oui, alors effectivement, dans cet extrait, Molière utilise Frosine pour critiquer le thème de la mésalliance, qui est une idée qui se diffuse au long de l'époque moderne par différents auteurs critiques, des littérateurs, des essayistes, qui considèrent que le mariage demande une réforme, et notamment une réforme dans l'âge des hommes et des femmes qui se marient. Il faut cesser de donner des très jeunes femmes en mariage à des vieillards. Et là, la marieuse, Frosine, elle fait office de fusible quelque part, puisque c'est sur elle que se focalise aussi le rire.
Et cette question de l'adéquation entre de futurs mariés est au cœur de toute votre réflexion et va l'être au cœur de cette émission, puisque la plupart des agents matrimoniaux expliquent que précisément leur rôle est de servir d'intermédiaire et de rapprocher ceux qui ne seraient pas sans eux qu'ils iront bien ensemble.
Oui, tout à fait. Là, on voit que le rôle de la marieuse, c'est d'établir un système d'équivalence entre différentes valeurs. Au nom d'Harpagon, à sa prestance et à son âge, doit correspondre pour une épouse différentes qualités. Et là, cette épouse n'a manifestement pas de dot à offrir, que sa jeunesse à offrir. Et la marieuse essaye de convaincre Harpagon que même sans dot, elle va lui rapporter beaucoup d'argent par son esprit domestique, d'économie, etc. Donc c'est effectivement ce système d'équivalence qu'on appelle en fait l'appariement, le fait de faire des paires assorties, qui est au cœur du fonctionnement de ce qui se développe au début du 19e siècle, qu'on appelle le courtage matrimonial.
Alors nous y voilà, commençons par la Révolution française, puisque c'est un moment décisif. C'est un moment où précisément émergent les premières agences matrimoniales qui expliquent qu'elles ont légitimité à cause de l'ère du temps, à cause de la fin des privilèges, avec l'ambition un peu folle de faire une sorte de grande agence nationale même.
Alors précisément, ces premières agences matrimoniales, elles reprennent à leur compte le discours critique de la fin du XVIIIe siècle sur les mauvais mariages, sur les mésalliances, et elle considère qu'il faut repenser le mariage dans le contexte révolutionnaire. Les deux agences matrimoniales qui émergent à la Révolution française, un journal qui s'appelle Le Courrier de l'Hymen, journal des dames, qui permet de publier des annonces.
Un courrier de l'Hymen, la chose est bien posée.
Tout à fait, tout à fait. Et qui est pensé comme un courrier féminin, c'est-à-dire que on va chercher les dames où elles sont, donc dans la presse féminine. Et puis l'Indicateur des mariages, qui est l'autre grande agence, qui passe aussi par un journal, qui cherche à indiquer les mariages faits et les mariages possibles à faire.
Je vois que le Courrier de l'Hymen se propose d'être, je cite, le dépositaire des intentions des parents, des jeunes gens, des célibataires, des veuves, qui auraient le désir d'établir leurs enfants, de suivre le penchant de leur cœur, ou qui voudraient former de nouveaux nœuds.
Là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette justification de la part de l'Indicateur des mariages, il y a cette idée qu'il faut sortir les négociations matrimoniales des privilèges, puisque c'est l'esprit effectivement du temps, et qu'il faut utiliser le mariage pour régénérer la nation en permettant de nouveaux nœuds et donc de meilleures unions plus assorties entre les nouveaux citoyens et citoyennes.
Mais c'est en même temps contre l'endogamie de la noblesse que l'on se définit.
Oui, c'est contre l'endogamie de la noblesse. Alors ça, c'est la justification publicitaire. Il y a beaucoup de discours dans cette presse matrimoniale pour dire il faut couper les privilèges et que les femmes nobles puissent épouser des hommes bourgeois. Et on voit que précisément, cette presse matrimoniale est à destination d'une clientèle bourgeoise à qui elle propose de court-circuiter les anciens champs d'alliance des élites, notamment des élites aristocratiques.
Est-ce qu'on trouve déjà ce trait qui perdurera, c'est-à-dire l'opposition entre le monde urbain et le monde rural? C'est dans le monde urbain que ces agences commencent de prospérer.
Oui, les agences matrimoniales sont des filles de la ville. Et d'ailleurs, elles sont critiquées pour cette raison, parce que comme elles proposent de faire du lien là où il n'y en a pas, elles sont critiquées pour être des symptômes justement de cette dissolution du lien social dans ce qui est donc cette nouvelle ville moderne et qui suscite tout un tas de craintes. Quelques années après ces deux expériences révolutionnaires là, qui ne sont pas très pérennes, les agences matrimoniales qui commencent à se développer sont vues comme une solution au brouillage des identités sociales. C'est-à-dire qu'après la Révolution, l'ordre naturel des choses, l'ordre social a été brouillé. On ne sait plus qui est noble, qui est bourgeois, qui est un nouveau riche. Et les agents matrimoniales se proposent justement de faire une lecture du marché matrimonial, de donner de la visibilité, de donner des étiquettes pour permettre de faire des unions assorties et éviter justement les mésalliances.
Et que chacun se retrouve à sa place, et en même temps on est sur un fond de tableau qui est celui de l'égalité des citoyens.
Oui, mais c'est de moins en moins ce qui est revendiqué par ces agences. Ça, c'est quelque chose qui était revendiqué vraiment au tout début à la Révolution, dans les premières années de la Révolution. Mais les agences matrimoniales qui commencent à se développer sous la monarchie de Juillet, par exemple, ne font pas mystère qu'elles ont surtout vocation à aider une jeune bourgeoisie à intégrer des cercles plus élitistes.
Et vous pensez qu'aujourd'hui, ce type de préoccupation dominerait également dans les sites de rencontres? Vous vous ressemblez, moins socialement, même si vous êtes différent de tempérament. Donc, mariez-vous.
Alors, sur les sites de rencontres, ce que montrent les sociologues de la famille et des sexualités, c'est qu'on rencontre précisément les personnes qu'on est destiné à rencontrer, notamment parce que les algorithmes font en sorte que ce soit le cas. Mais le critère social et économique qui s'affiche très crûment dans les annonces et dans les agences du début du 19e siècle, on parle de dot, on parle de situation, on donne des chiffres. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de ça dans les sites de rencontres. Ça ne veut pas dire pour autant que les règles d'appariement social et familial se sont effondrées sur Internet. Loin de là. C'est d'ailleurs ce que montre ma collègue sociologue Marie Bergström. Elle montre que ces critères-là passent par d'autres critères, c'est-à-dire qu'on a intériorisé ces critères-là en décryptant, par exemple, les corps. Certains corps veulent dire quelque chose socialement. Certaines attitudes, certains goûts culturels, évidemment, permettent de situer les individus socialement. On a simplement déplacé le problème, c'est-à-dire que sur les sites de rencontres, on a développé des aptitudes pour situer socialement notre interlocuteur sans parler jamais d'argent et peut-être même rarement de profession.
C'est là évidemment une différence fondamentale avec la très longue durée de votre 19e siècle. Mais restons un instant sur l'émergence des deux premières grandes agences matrimoniales, c'est-à-dire l'étrange Vuillaume. Vous avez l'art des portraits, Claire-Lise Gaillard, et vous nous le montrez, ce personnage étrange. Et puis il y a l'agence Deux Fois qui va durer plusieurs décennies. Vous voulez bien nous les restituer?
Oui, alors Claude Vuillaume est un personnage tout à fait fantasque, tout à fait difficile à étudier parce que lui-même produit beaucoup d'informations sur sa propre personne. C'est un homme de plume, il aime beaucoup se mettre en scène. C'est une sorte d'aventurier en fait. Il a essayé de jouer un rôle de premier plan, notamment en essayant d'assassiner Napoléon.
Ah oui. Et ça ne lui a pas nui.
Si, il a été en prison, mais alors il a essayé de faire fructifier ce malheureux événement pour lui en écrivant ses mémoires sur cet épisode en prison. Et puis, il a considéré que sa célébrité pouvait lui servir pour faire quelque chose et il a essayé donc de fonder un bureau général et central sur le modèle du bureau général et central de Théophraste Renaudot.
La Gazette de Renaudot, le premier grand journal français où effectivement le fondateur s'était largement enrichi par le système des petites annonces.
Exactement. Donc Vuillaume essaie de revenir à ce modèle-là. Il cherche à s'inscrire dans cette tradition et Vuillaume sait qu'au début du 19e siècle, il est un agent d'affaires parmi d'autres. Alors les agents d'affaires, ce sont tous les individus qui s'occupent pour la classe bourgeoise de différentes affaires. Sous la monarchie de Juillet, le marché est saturé des agents d'affaires et il y en a plus de 200 à Paris. Donc, Villaume a l'intuition qu'il faut se singulariser, et c'est une logique commerciale, et pour se singulariser, il décide qu'il va s'occuper principalement des mariages. Et son bureau général et central va être l'occasion de faire une première forme d'agence matrimoniale centrale. Et il est aussi le premier qui pense à utiliser la presse générale. Il diffuse ses petites annonces de rencontres dans les petites affiches, qui est à ce moment-là un organe de presse assez puissant et qui a une force de diffusion assez intéressante.
On trouve déjà cette présence des petites annonces qui va parcourir le tout de votre période depuis le début du 19e siècle.
Disons que dès le départ, l'agence matrimoniale a partie liée avec l'annonce matrimoniale. Mais c'est quelque chose qu'abandonne un petit peu Charles-Henri Napoléon deux fois, qui est donc le successeur de Villaume.
Beau prénom et qui nous dit qu'il est né sous l'Empire.
Tout à fait, qui a commencé sa carrière, dit-il, à 25 ans et qui a une longévité inégalée. Son agence ne finit qu'avec lui à sa mort en 1888. Et c'est celui qui est reconnu par la postérité comme l'inventeur de l'agence matrimoniale. Alors il aurait eu toutes les vertus, il aurait été honnête, il aurait été efficace. On lui attribue plus de 10 000 mariages sur toute sa carrière. Et c'est l'anti-Villaume, quelque part, ce deux fois, parce que, contrairement à Villaume, qui, lui, écrit beaucoup sur sa personne, n'hésite pas à mettre en scène sa personnalité fantasque, à se moquer des vaudevilles qui se moquent de lui-même, deux fois, au contraire, lui, a une stratégie complètement différente, celle du sérieux, auprès de sa clientèle. C'est-à-dire que lui, il essaye au contraire de faire légitimer sa profession auprès des tribunaux.
On arrive déjà à la grande question, mais suspendons notre conversation sur ce point, si vous voulez bien, la grande question du faire savoir, de la publicité de ces entreprises. Auparavant, je vous propose cet extrait du témoignage d'un policier qui s'appelait François Goron et qui a publié des mémoires où il donne la parole précisément à un responsable d'une de ces agences, L'amour à Paris, nouveau mémoire, 1899, diffusé dans la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin sur France Culture le 13 février 2013.
Un jour, je suis mandé à Bruxelles par un notaire qui me connaissait fort bien. « Pouvez-vous, dans le délai le plus bref, me dit-il, trouver un mari pour une jeune fille du monde qui a commis une faute ? Elle a été séduite par un homme qu'elle ne peut épouser et elle est enceinte. La famille ne demande qu'une chose, un nom honorable qui rendra le mariage explicable et n'excitera pas les commentaires des mauvaises langues. La dot est tentante, 2 millions. Dépêchez-vous, car la taille de la jeune fille s'arrondit tous les jours. » Rentré à Paris, je cherchais vainement dans ma mémoire, parmi ma clientèle, un jeune homme répondant aux conditions demandées. J'étais fort ennuyé quand je reçus la visite d'un monsieur très distingué qui m'était adressé par un ecclésiastique fort connu du diocèse de Paris. Complètement ruiné par les mauvaises spéculations, il espérait, par un mariage, se refaire une petite situation. Mais il fallait, avant tout, que ce mariage fût honorable. À tout hasard, par une habitude de métier, je lui dis « J'ai bien en ce moment une jeune fille qui a une superbe dot, mais elle ne peut faire votre affaire. Elle apportera 2 millions à celui qui l'épousera, mais en même temps un enfant. » Et le comte, car il était comte, sortit en faisant claquer la porte. Je croyais bien, je l'avoue, que c'était un client perdu, quand le lendemain, je fus tout étonné de le voir reparaître. « Monsieur, me dit-il, sans aucun embarras, car sa morgue de la veille était tout à fait tombée, j'ai bien réfléchi depuis hier et j'ai consulté mon confesseur. Cette jeune fille, qui a commis une faute, est digne d'intérêt. Il y a là une bonne œuvre à accomplir, une âme à sauver. Je consens à l'épouser. Oh, ce n'est pas pour la dot, c'est pour la bonne œuvre. »
Nous y voilà, Claire-Lise Gaillard, dans cet univers spécifique. Beaucoup d'hypocrisie, secret et célérité. Agir vite.
Oui, il faut agir vite, parce que là, effectivement, on est dans le cas du mariage avec tâche. Ces jeunes filles qui ont été séduites et qui ont besoin, avant que leur taille ne s'arrondisse de trop, comme il est dit dans l'extrait, de conclure un mariage qui permettra de blanchir la famille aux yeux du monde.
Avec tâche, c'est une formule qu'on rencontre un peu partout.
C'est une formule qui est très utilisée dans la littérature et qui est ensuite récupérée dans certaines annonces. Mariage avec tâche, c'est la tâche qui fait référence en fait à la tâche de la défloration et ensuite qui évoque le fait qu'il peut y avoir une grossesse. Il y a aussi le mariage avec tare, qui lui est davantage lié à la famille. Il peut y avoir une tare familiale, donc il est un peu moins infamant que le mariage avec tâche.
On n'a pas besoin d'adopter un bébé.
Voilà, on n'a pas besoin d'adopter un bébé, mais il y aura des choses à cacher aux yeux du monde, et ça peut justifier aussi que le mariage peut être avantageux, parce que cette tâche ou cette tare va être compensée par une dot très importante. Mais alors justement, pour ce type d'union, les agences matrimoniales sont prises dans une sorte de paradoxe, parce qu'il faut à la fois qu'elles se fassent connaître, par souci de commerce tout simplement, de publicité, et il faut que la clientèle vienne à elles. Et en même temps, comme les unions qui sont négociées à l'intérieur sont des unions qui sont parfois difficiles à négocier, douloureuses, qui sont entourées de secrets, elles promettent aussi non seulement la célérité, comme on l'a dit, mais aussi la discrétion.
Alors entre discrétion, secret d'un côté et publicité de l'autre, comment s'organisent-elles ?
Alors, c'est tout un paradoxe, effectivement. D'abord, elles font de la publicité à grand tapage dans la presse générale, en surenchérissant de garanties. Par exemple, Charles-Henri Napoléon de Foix, l'agent matrimonial le plus connu du milieu du XIXe siècle, rassure ses clients en disant qu'il inscrit les personnes dans ses registres à l'aide d'un système de hiéroglyphes, à l'aide d'un système codé dont lui seul a la clé, la clé de compréhension, et même ses collaborateurs et collaboratrices n'ont pas la compréhension de ce système. Alors, je peux vous dire d'emblée que c'est faux. Moi, j'ai eu accès à ces registres et ils sont très bien compréhensibles, et fort heureusement pour moi d'ailleurs.
Oui, c'était une magnifique trouvaille que vous avez faite, les registres de Foix qui vous ont beaucoup appris.
Oui, et je la dois aux différents procès que De Foix a eu avec la justice. Tantôt que les clients ne veulent pas payer et donc De Foix les amène en justice pour avoir son dû, tantôt l'inverse, les clients ont payé des choses et demandent à De Foix réparation parce qu'ils n'ont pas trouvé de femme. Alors ça, c'est fantastique pour moi parce que dans ces cas-là, il peut y avoir des saisies judiciaires. Et c'est le cas de ces trois registres-là. Ils ont été saisis en 1849 à l'occasion d'un procès. Et c'est la preuve que De Foix ment dans ses publicités, puisque dans ses publicités, non seulement il parle de ce système de hiéroglyphes, mais il dit aussi que tout mourra après lui. Il dit aussi qu'il brûlera toutes ses archives, et même son inventaire après décès le fait mentir, puisqu'on sait qu'ont été conservés, en tout cas au moment de sa mort, plus d'une dizaine de registres avec les secrets de tout Paris sur plusieurs dizaines d'années.
Je ne vous demande de révéler rien, Claire-Lise Gaillard, mais on se réjouit comme historien qu'il ait menti.
Tout à fait, tout à fait.
Il faut marquer aussi la défense que peuvent avancer cette profession pour expliquer son rôle social, son utilité sociale. C'est-à-dire d'abord qu'elle permet d'éviter l'union libre, de surmonter la crise du mariage, et même de s'en prendre au péril du féminisme.
Alors ça, effectivement, ce sont les justifications que ces agents et cette presse matrimoniale mobilisent pour défendre leur bien fondé, puisqu'ils sont systématiquement attaqués sur leur bien fondé. Parmi les arguments qui sont utilisés, au début du XIXe siècle, le principal argument, c'est justement de répondre à la désorganisation du monde social dont on a parlé. Et puis à la fin du XIXe siècle, cet argument se déplace sur d'autres objets, notamment la défense du mariage. Il y a cette idée que le mariage serait en crise à la fin du XIXe siècle.
La loi sur le divorce est de 1884, la loi Naquet.
Voilà, la loi Naquet est fermement attaquée par les tenants de la critique morale. Et les agences matrimoniales prennent le pli de cette critique pour, au contraire, affirmer la valeur sacrée du mariage et se mettre du côté des défenseurs de la moralité face à tous ceux et tous ceux qui les attaquent, et notamment, effectivement, les féministes. Et il y a certains agents pour dire que les féministes sont en fait, des vieilles filles qui n'auraient qu'un intérêt, c'est de venir les voir pour se marier, et que leur féminisme s'effondrerait très facilement avec le mariage.
Je voudrais vous faire sentir l'ambiance qui est encore contemporaine pour que vous nous informiez sur d'éventuelles permanences. Écoutez cet extrait d'un reportage télévisé sur les agences matrimoniales proposé par Antenne 2 en 1975. Il s'agit ici de l'inscription d'une femme dans une agence. Cette femme est peut-être une journaliste déguisée, mais ça n'a pas grande importance.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour madame, entrez, je vous prie. Asseyez-vous.
Madame, vous désirez vous marier puisque vous venez me voir.
Oui.
Oui. Ne soyez pas intimidés, vous savez, tout le monde vient pour la même chose. Nous ferons ce que nous pouvons. Je vais me permettre de vous remplir une fiche et de vous demander vos coordonnées, de vous demander soit une pièce d'identité, soit un passeport. Ceci, c'est absolument confidentiel et ceci est justement pour vous protéger, car nous ne prenons personne sans papier officiel. Quel âge avez-vous, madame ?
35 ans.
Vous êtes française, voilà, je vois votre profession.
Secrétaire.
Voilà. Vous gagnez par mois ?
2800 francs.
2800 francs, oui. Votre religion, vous êtes...
Catholique.
Vous êtes catholique. Physique, vous êtes bien physiquement, c'est moi qui le mets, puisque c'est vrai. Alors, vous êtes célibataire, veuve, divorcée ?
Eh bien, je suis célibataire.
Vous êtes célibataire. Célibataire sans enfant, voilà. Alors, c'est exclusivement dans le but du mariage, bien sûr, et on vous présente des personnes qui correspondent à ce que vous nous demandez. Qu'est-ce que vous désirez comme profession, par exemple, et comme monsieur, quels sont vos goûts aussi, et tout cela, voyez ?
Bien, c'est très difficile de répondre à cette question, c'est gênant.
Qui vous plaît, vous aimeriez le milieu ingénieur, cadre, technicien?
Oui, ça serait très bien.
Est-ce que vous acceptez les divorcés ou est-ce que vous voulez uniquement des célibataires? Célibataires, c'est un peu difficile aussi.
Non, ça n'a pas d'importance, veuf ou divorcé.
Veuf ou divorcé, vous acceptez. Et jusqu'à quel âge iriez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez comme âge ? Âge en rapport ou un peu plus âgé ? En général, nous comptons jusqu'à 7 ou 8 ans de plus, les messieurs, voyez ?
Ça me semblerait bien.
Ça vous semblerait bien, voilà. Alors, des messieurs de 7... Voilà.
Comment se passent les rencontres ?
On vous met dans un salon seul avec un monsieur et si cela va, vous sortez ensemble, vous échangez vos cartes et c'est tout simple, voyez, c'est comme si vous aviez rencontré cette personne chez des amis ou ailleurs. Ça ne change rien ni à l'amour ni à l'affection que vous pouvez avoir, ce n'est pas du tout un mariage de raison.
Alors il y a un point qui m'intéresse évidemment parce que j'ai un budget... un peu limité.
Oui. Nos privaries suivants, nous avons des inscriptions d'un an, de 6 mois. Enfin, nos privaries en correspondance de 800 francs jusqu'à 2000 francs. Vous voyez, de toute manière, ce n'est pas ruineux. Et si on vous marie pour ce prix-là, c'est encore pas cher.
C'est encore pas cher. Qu'est-ce que vous en pensez, Claire-Lise Gaillard ?
Alors là, ce qui me frappe, puisque vous m'interrogez sur les permanences, c'est effectivement les très grandes permanences sur le temps long de la structure genrée, en fait, que perpétuent ces services d'intermédiation, qu'il s'agisse des agences du début du 19e siècle, de cette agence du milieu du 20e siècle, ou encore même aujourd'hui des services de rencontre. Parce que au moment où la marieuse dit « il nous faut vos papiers parce qu'on ne prend personne sans vos papiers, c'est pour vous protéger », là, en fait, c'est encore l'ombre de Landru qui pèse. Landru, donc en 1921, le procès Landru a fait tellement grand bruit que on suspecte toujours qu'il puisse y avoir là un danger pour les femmes de passer par ce type d'intermédiation.
Parce qu'il faut rappeler que Landru avait trouvé ses victimes précisément dans les petites annonces.
Voilà, c'était son mode opératoire. Il avait passé plus de 280 petites annonces, ce qui est en fait un ratio de réussite, si je puis dire, même si le terme de réussite est à mettre bien en entre guillemets,
réussite fatale,
tout à fait ridicule, puisqu'il a eu en réalité des correspondances suivies qui ont abouti à quelque chose simplement qu'avec une dizaine de femmes.
Un pourcentage très médiocre en somme.
Un pourcentage très médiocre, mais qui montre aussi sa démarche tout à fait proactive, qui était partagée par tout un tas d'hommes de cette période-là. On est au moment de l'entre-deux-guerres à ce moment-là. Et au moment de l'entre-deux-guerres, les hommes ont cette idée que, comme ils sont en minorité sur le marché matrimonial, leurs prétentions pour les mariages vont pouvoir être plus élevées.
Je signale qu'est paru récemment un excellent livre de Bruno Fulini sur Landru, qui s'attache en particulier à décrire le procès, où on rencontre assez bien ces sentiments, finalement, de relative indulgence, avant néanmoins qu'on le décapitât.
Tout à fait. Et au moment du procès, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été dites sur les femmes qui ont été victimes de Landru et beaucoup de moqueries sur leur naïveté. Et justement, parmi les permanences qu'on peut voir, il y a quand même ce sentiment de honte de la part des utilisateurs et des utilisatrices de ces systèmes, justement parce qu'elles risquent d'être piégées, trop naïves. Et donc là, c'est ce qu'on entendait aussi dans l'extrait. Et puis ce qu'on entendait aussi, qui me semble intéressant à commenter dans l'ordre des permanences, C'est aussi le rôle de la marieuse dans l'intériorisation des règles d'appariement au profit des hommes.
C'est-à-dire ?
On sent dans l'entretien qu'elle a qu'elle pousse la jeune femme à accepter certaines choses. Elle lui dit « Voulez-vous des célibataires, des divorcés ou des veufs ?» Les célibataires, c'est un peu difficile. Et dans ce cas, elle est prête à accepter des veufs et des divorcés. Et de la même manière, lorsqu'elle lui demande quel âge elle voudrait pour son conjoint, elle lui dit d'emblée, d'ordinaire, on compte 7 à 8 ans de plus pour les époux.
Alors venons-en aux critiques violentes qu'ont essuyé évidemment ces officines, ces entreprises matrimoniales, des critiques qui peuvent d'ailleurs perdurer aujourd'hui encore à l'égard des sites de rencontres en France et à l'étranger, parce qu'il y en a beaucoup à l'étranger, en particulier dans les sociétés fermées. Une des critiques les plus vives consiste à dire, au fond, si les agences prospèrent, c'est parce qu'il n'y a pas de solution de continuité. Il y a un continuum entre les pratiques bourgeoises de la fin du 19e siècle et celles de ces entreprises. C'est-à-dire que ces mariages bourgeois sont déjà fondés sur l'argent. Il y a un texte intéressant de Bebel, le socialiste allemand, qui l'explique. Et on trouve aussi Paul Féval, vous savez, l'auteur des 5 sous de Lavarède, qui dans Jean Diable explique que ceci, depuis que le mariage est devenu simplement une affaire, on compte une profession libérale de plus, celle d'agent matrimonial.
Ce qui est intéressant, c'est que la critique des agences matrimoniales, elle montre autre chose que les agences matrimoniales. En fait, les agences matrimoniales font office de fusible pour critiquer ce qui se passe à l'intérieur de leurs coulisses, c'est-à-dire les mariages bourgeois. La manière dont les mariages bourgeois sont arrangés, la manière dont les jeunes femmes sont exclues des négociations, la manière dont le patrimoine et la situation sociale sont mises en avant toutes les préoccupations affectives et amoureuses, c'est ça qui est critiqué par tous les tenants de la critique des agences matrimoniales, parmi lesquels il y a effectivement des féministes et des socialistes dont on a parlé tout à l'heure.
Ça, c'est la critique de gauche, et puis il y a une critique de droite, méfiance à l'égard du côté interlope qu'ont beaucoup de ces agences. En tout cas, on leur prête une moralité douteuse. Et naturellement, c'est au théâtre, comme je le disais, dans le vaudeville, qu'on trouve souvent le reflet de tout ça. Écoutez donc cet extrait de la pièce d'Eugène Labiche qui s'appelle « La cagnotte », interprétée par la Société des comédiens français, le 29 décembre 68 sur France Culture. C'est une pièce de 1864.
Un salon brillamment éclairé, chez Coquarel, rue Joubert.
Dépêche-toi, Joseph.
C'est fini, monsieur. Faut-il allumer aussi dans les autres salons ?
Mais certainement. Aujourd'hui, grande soirée, entrevue de première classe. Une jeune personne de la Ferté-sous-Jouarre.
100 000 francs de dot. Tu as commandé des glaces, des petits fours ?
Ah oui, monsieur.
Très bien. Tu as prévenu aussi notre personnel de danseurs, de danseuses ?
Oui, monsieur. Ils viendront tous.
7h15. Si j'en crois sa dépêche, la belle Léonida ne tardera pas à arriver. Moi, venir à 8h. Moi, bien ému. Moi, pas dormir. Elle parle nègre. Elle est peut-être créole. Voyons son dossier. Remettons-nous en mémoire les détails de sa personne. Je suis brune. Sapristi, pourvu que ce ne soit pas une négresse. C'est très difficile à écouler. Cependant, l'année dernière, j'en ai réussi une. Oui, mais c'est un autre prix. Je prends 10% sur la dot au lieu de 5. Voyons, mon front est pâle. Ah, elle est blanche. Une tendre mélancolie tempérée par une douce gaieté brille dans mes yeux. Je suis distingué de manière, sans afféterie, expansive, douce. Elle entend le prospectus. Enfin, si la personne me plaisait, je consentirais à habiter une petite ville bien située.
Monsieur Coquerel ?
Hein, que voulez-vous ?
C'est moi, je viens pour la soirée.
Ah, très bien. Attendez, il faut que je vous examine.
Il va m'examiner ?
Voyons, tournez-vous. Oui, pas mal, pas mal. Votre gilet est bien, mais le pantalon n'est pas de la première fraîcheur. Je n'ai pas besoin de vous recommander de la tenue, de la réserve. Hein? Un langage châtié, pas de mots équivoques, d'allusions grossières.
Oui, il ne faut pas dire de bêtises aux dames.
Autre chose, on passera des glaces, des bonbons assortis, vous n'y toucherez pas.
Ah ?
Vous n'avez droit qu'à une brioche et à une tasse de thé. Voici vos gants.
Des gants ?
Ayez-en soin, il faut que ça fasse 2 fois. N'en mettez qu'un, je tiendrai l'autre à la main. Plus vos 5 francs.
Comment ? 5 francs ?
Ne discutons pas, je vous prie.
5 francs les cavaliers, 3 francs les dames. C'est ce que je donne, c'est l'usage.
Alors, Claire Lise Gaillard, on pourrait aussi donner à entendre Scribe ou Fedot, qui ont joué évidemment de tout ce que pouvait nous apporter le milieu spécifique des agences matrimoniales dont nous parlons ce matin.
Oui, il y a dans ces vaudevilles concentrées toute une série d'enjeux, en tout cas la manière dont le public se représente ce qui se passe derrière les portes des agences. Alors on entend à la fois le système de compensation que l'agent matrimonial entend déjà anticiper lorsqu'il se demande si la personne est noire, peut-être qu'il va devoir avoir une commission plus importante, encore ce système de compensation. Tous les stigmates se payent, tous les stigmates sociaux se payent. Et puis ce qui est aussi très intéressant, c'est que la biche révèle les machinations des agences et notamment la mise en scène des soirées de présentation avec des figurants. Là, ici, c'est ça qui est donné à voir.
Des figurants auxquels on ne donne que 5 francs.
Qui sont fort peu payés, mais qui ont plusieurs occasions de jouer différents types, en fait, différents types littéraires, l'oncle à héritage, le rival, etc.
On trouve le même principe dans La vie parisienne, d'ailleurs, de Meillac et Halévy, enfin de Offenbach, où le jeune homme français, pour séduire la Suédoise, organise une fausse réception.
Oui, on voit bien qu'il y a une intrication, une continuité entre les pratiques des agents matrimoniaux et en fait les pratiques tout à fait courantes dans les négociations matrimoniales bourgeoises. Et c'est précisément cette continuité qui est la source de critiques.
Alors comment organisent-ils les rencontres ? C'est souvent dans les classes élevées, à l'opéra.
Alors effectivement, les lieux de sociabilité sont très prisés parce que ça permet aux prétendants d'aller entrevoir la femme qu'on lui destine sans se faire connaître. L'opéra est très pratique. Et c'est d'autant plus pratique pour les agents et les marieuses que ça permet de faire payer le coût de la loge qu'ils vont louer pour la jeune fille qui présente, qui n'est pas toujours une jeune femme à marier, qui peut être une actrice d'ailleurs. Ça leur permet de faire payer ce coût de la loge plusieurs fois à plusieurs prétendants différents et d'avoir comme ça une petite rentabilité.
Là, quand vous parlez d'une actrice qui n'est pas en réalité une jeune femme disposée au mariage, vous entrez déjà dans les eaux de l'escroquerie ou de la quasi-escroquerie. Et les tribunaux ont évidemment à s'en mêler.
C'est la première manière par laquelle le public entend parler de ces agences matrimoniales, peut-être même avant leur publicité, c'est par la chronique judiciaire dans les journaux. Et cette chronique judiciaire fait ses choux gras de ces histoires d'escroquerie au mariage, parce que c'est tout à fait croustillant et le style journaliste fictionnalise à l'envi ce type d'histoire. L'escroquerie au mariage, c'est un délit qui est tout à fait en expansion au fil du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, il y a un moment escroquerie au mariage, au moment où les petites annonces permettent notamment à des femmes de faire passer des annonces où elles se présentent comme des très jolies jeunes femmes orphelines, donc ayant eu un héritage évidemment millionnaire. C'est un attrape-nigaud qui leur permet d'avoir beaucoup de correspondants.
Et les nigauds pullulent, en fait.
Tout à fait. Et cela viennent les rencontrer et leur promettre le mariage. Et la promesse de mariage leur permet à ces femmes-là de se faire offrir toute une série de cadeaux. Et évidemment, comme elles ne peuvent pas se marier avec tout le monde, elles disparaissent soit la veille du mariage, soit même de temps en temps, elles se marient à l'étranger et puis elles disparaissent le lendemain du mariage pour tout un tas de prétextes fallacieux.
Parfois, elles meurent.
Parfois, effectivement, elle meurt subitement d'une fluxion de poitrine et c'est la marieuse celle qui joue la marieuse qui est chargée d'annoncer la mauvaise nouvelle au prétendant énamouré.
Alors pour se défendre contre ces attaques, contre ces méfiances, contre ces philippiques dirigées dans la presse et sur la scène souvent, les agences utilisent des procédés rhétoriques.
Alors effectivement, il y a différentes stratégies. Guillaume, on l'a dit, a choisi d'endosser le stigmate.
Le Guillaume de la Révolution.
Le Guillaume de la Révolution, mais il y en a d'autres avec lui qui ont choisi d'endosser le stigmate, c'est-à-dire qu'il considère que toute publicité est bonne à prendre. Pourvu qu'on parle de lui, son nom circule et de fait, ça lui permet de faire venir tout un tas de gens à lui. Et puis, il y a d'autres stratégies, certaines stratégies qui visent à contourner la critique de la marchandisation en se donnant l'air de ne pas être un commerce. Et comment est-ce qu'on se donne l'air de ne pas être un commerce ? Eh bien, à force de stratégies rhétoriques où on parle de philanthropie, on parle d'œuvres de bienfaisance.
Un service méritant récompense.
Voilà, de récompense, d'honoraires. En tout cas, on évite à tout prix les termes de rétribution, les termes de commission. Et puis, progressivement aussi, Ces agences matrimoniales cherchent, en utilisant la presse matrimoniale, à transformer leur clientèle en lectorat. Parce qu'il y a beaucoup moins de stigmates à être lecteur abonné d'un journal plutôt que client d'une agence matrimoniale qui est accusée de tous les vices.
Donc on demande des frais de bureau à titre de dédommagement pour la correspondance, etc.
Tout à fait, ce sont des stratégies de dénégation de l'économie qui visent aussi à contourner ce que les tribunaux condamnent, à savoir le fait d'acheter un consentement. En fait, les tribunaux au début du XIXe siècle se posent cette question. Peut-on acheter un consentement ? Parce que si la rétribution de l'agent matrimonial fonctionne en pourcentage sur la dot, c'est-à-dire que l'agent n'est payé que si le mariage conclu, il peut ponctionner 5 à 10% de la dot. Dans ce cas, il y a un doute qui plane sur le consentement de l'épouse. L'agent matrimonial aurait-il manœuvré pour arracher un consentement, ce qui est évidemment très mal vu, notamment depuis la réaffirmation de l'importance du consentement au moment du Concile de Trente. Il y a très peu de consensus, les tribunaux ont beaucoup de mal à se mettre d'accord, notamment parce que le courtage matrimonial, c'est quelque chose de nouveau au début du XIXe siècle, c'est quelque chose qui est dans un angle mort du droit. Mais la jurisprudence finit par se mettre d'accord plutôt à la fin du XIXe siècle pour dire que la commission sur la dot est pensée illicite justement pour cette histoire de consentement. En revanche, l'agent matrimonial a le droit de percevoir justement des frais de bureau. Il a le droit de se faire indemniser pour toutes les dépenses qu'il mettrait en place pour assurer le mariage.
Les petits cadeaux, les loges à l'opéra précisément,
voilà,
etc.
Voilà, les petits cadeaux, les frais de timbre, parce que c'est quelque chose que les agents matrimoniaux notent très régulièrement, les frais postaux, le papier à lettres, le cocher qui aura donné cette information, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont rétribuables et qui sont autorisées par les tribunaux comme tels.
Est-ce que souvent on ne reproche pas des faits de proxénétisme déguisé du côté des tribunaux ? Est-ce que cela ne nous conduit pas d'ailleurs assez loin jusqu'aujourd'hui, à l'époque du Minitel rose, naguère et d'autres petites annonces d'aujourd'hui ?
Oui, alors ça c'est une autre critique qui pèse sur le marché de la rencontre, parce que précisément les annonces matrimoniales peuvent être un paravent très efficace pour des maisons de rendez-vous. Puisqu'à la quatrième page des journaux, c'est tout à fait facile d'insérer une annonce qui mentionne un mariage rapide. Alors, non pas que...
Très rapide.
Non pas que la future mariée soit pressée, comme ça peut être le cas dans les mariages avec tâche, mais là, plutôt que l'union va être rapide et rapidement consommée et puis rapidement terminée.
Donc, dénouée, oui.
Il y a des mots-clés comme ça, il y a des jeux de mots qui sont connus des lecteurs et lectrices de l'époque pour déceler quelles sont les offres prostitutionnelles. Et dans le même temps, ça permet aussi à ces acteurs et ces actrices de proxénétisme de passer en dessous des radars de la loi. Puisque ce n'est pas du racolage public, puisqu'il n'y a pas de mot qui soit ouvertement relié à la prostitution. Ça joue sur les codes.
Mot MOTS ou MAUX ?
MOTS dans ce cas.
Je vais vous faire entendre, toujours au chapitre des efforts d'autodéfense de ce milieu, ce que dit, seconde citation de François Goron, 1899, le policier, ce qu'il rapporte des propos d'un agent matrimonial offensé par les critiques qu'on peut lui adresser.
Pour les gens qui ne sont pas du monde, l'agence matrimoniale est indispensable. C'est grâce à elle que ceux qui manquent de relations marient leurs enfants. Vous ne vous doutez pas du nombre de fonctionnaires, de magistrats, de magistrats qui ont trouvé dans des agences matrimoniales des épouses et des dots. Si vous voulez, je vous citerai les noms de belles dames dont on admire les diamants dans les fêtes officielles, qui se font appeler Madame la Présidente ou Madame la Conseillère, gros comme le bras, et qui se sont fiancées dans mes bureaux ou dans ceux de quelques collègues. Et parmi les autres fonctionnaires, parmi les plus hauts, combien n'ayant pas le sou ont trouvé chez nous la dot qui leur a permis de faire figure dans le monde ? Pour beaucoup, peut-être, il y avait une petite tâche dans la famille. Mais quelle importance cela a-t-il quand on ne le sait pas ? Vous allez me reprocher de tromper le public, de tromper nos clients en insérant des annonces absolument fausses dans les journaux, d'avoir plusieurs domiciles, etc. Mais ce n'est pas de notre faute, allez, ce sont les mœurs qui veulent ça. Ainsi, supposons que vous me fassiez l'honneur de me rendre visite. Je vous montre dans mon bureau un client, un homme du monde à la côte, qui implore mon concours chaque jour pour le tirer d'affaires. Quelques heures après, vous le rencontrerez dans un salon et vous l'entendrez parler des agents matrimoniaux. Ce n'est plus le même homme. Il faut voir avec quel mépris il traite ces crapules, ces escrocs qui ont la prétention de marier les gens. Le préjugé existe.
L'agent matrimonial auquel Marie-François Goron donne la parole montre bien que l'agence matrimoniale, elle suscite la critique précisément parce qu'elle révèle les failles du fonctionnement des mariages bourgeois. Et là, c'est précisément l'incapacité de cette clientèle à se marier, donc qui va voir ces personnages interlopes un peu aux marges de la bonne société. Tout le monde se bouche le nez, mais tout le monde y va quand même. C'est un peu le sens de cette critique-là. Et puis, l'agence matrimoniale révèle aussi les contradictions du mariage bourgeois qui continuent dans les pratiques à donner aux questions économiques une place très très importante, alors qu'à la fin du 19e siècle, tous les discours s'accordent à penser la prédominance du mariage d'amour. Et donc, il y a ce paradoxe, en fait, dans le mariage bourgeois, qui à la fois valorise le mariage d'amour et qui, dans les faits, continue d'organiser les unions sur les questions économiques et patrimoniales. Et l'agence matrimoniale révèle justement ça, et révèle qu'il y a bien une intrication entre l'économie et l'intimité, et qu'il y a bien un lien entre la dot et le cœur, voire la dot et la sexualité. Et ça, cette organisation, c'est ce que l'anthropologue Paola Tabet a appelé le continuum de l'échange économico-sexuel. C'est-à-dire qu'elle considère qu'il n'y a pas de rupture nette entre, d'un côté, l'union légale, qui serait le mariage, et de l'autre, l'union vénale, qui serait la prostitution. Elle considère qu'il y a tout un ensemble d'intrications entre économie et sexualité. Et il me semble justement que c'est bien ça que vise la critique des agences matrimoniales, plus que les agences elles-mêmes. C'est bien le fait que ces agences, par leurs annonces, révèlent qu'il existe ce continuum. Justement parce que les annonces de mariage, dans la quatrième page des journaux, elles sont juste à côté de ces annonces suspectées prostitutionnelles.
Et ces annonces sont très révélatrices de ce que vous dites. On peut en citer quelques-unes d'ailleurs. Commerçant en vin, veuf, actif et intelligent, précédemment ruiné par une catastrophe, a relevé ses affaires et recommence à bien gagner. Épouserait demoiselle ou veuve sans enfant, ayant de 30 à 50 000 francs.
Demoiselle, 22 ans, fille unique de commerçant, petite tâche de famille. Très jolie jeune fille, bien élevée. Les parents possèdent plus de 100 000 francs, et doteront bien leur fille, qu'ils éloigneraient.
Agriculteur en Amérique, 42 ans, riche santé, caractère loyal et franc. Fortune, 300 000. Gain énorme dans son exploitation, désire épouser une Française un peu fortunée, de 30 à 35 ans.
Demoiselle, 23 ans, très jolie, faite au moule. Dot, 100 000 et belles espérances.
Ces annonces sont extraites du Trait d'Union Universelle, journal matrimonial de l'agence de Madame Reine d'Est, marieuse lyonnaise, entre 1889 et 1890. Clientèle bourgeoise, apparemment.
Oui, dès le début du 19e siècle, et puis c'est quelque chose qui perdure jusqu'à la fin du 19e siècle. Pour se marier, il faut avoir une dot, donc le mariage et les agences matrimoniales s'adressent d'abord aux classes supérieures. Ce n'est que au début du XXe siècle, qu'on voit apparaître les classes moyennes, voire les classes populaires dans les petites annonces, dont le prix est bien moins élevé que la commission sur la dot des agences.
De nombreux journaux se sont adonnés à la publication de ces petites annonces. C'est déjà vrai du premier Figaro de Villemessant, qui s'arrête au bout d'un moment parce que ce n'est pas très convenable, ou dans l'entre-deux-guerres également. Je vois que Paris Soir explique, quand on le critique, mais voyons, c'est la vie qui passe, 1924.
Alors en effet, les petites annonces qui sont nées dans la presse générale progressivement ont conquis leur propre presse. Parce que justement, ces annonces de mariage dont je parlais tout à l'heure, comme elles pâtissent de la mauvaise réputation de la quatrième page des journaux dans lesquelles il y a des offres prostitutionnelles, dans lesquelles il y a du matériel érotique qui est parfois vendu, des offres de massage qui peuvent être louches, ces annonces, qui elles sont bien des annonces de mariage, progressivement vont être récupérées par une presse matrimoniale, celle de l'entre-deux-guerres, qui, au contraire, se veut un espace de moralité, un espace de sérieux, qui sera une garantie pour le lectorat, pour les abonnés, d'être certain que les personnes qu'ils vont rencontrer seront bien des personnes sérieuses, catholiques, de bonne moralité, honnêtes, qui veulent se marier.
catholique, oui, vous montrez qu'il y a désormais un certain nombre d'agences qui sont spécialisées en quelque sorte. L'Alliance chrétienne, par exemple, on est sûr qu'on rencontre des bons catholiques, effectivement. Je vois aussi que des militants de la France insoumise, récemment, ont créé un groupe de rencontres qu'ils ont appelé Insoumitique.
Alors je l'ignorais, je trouve ça tout à fait passionnant.
Je suis ravi de vous apprendre quelque chose sur ce sujet.
Parce que c'est vraiment un exemple du fait que le marché, en se développant, se segmente aussi. Pour se singulariser, on crée des sortes de niches en ciblant certains critères particulièrement importants. Le critère religieux a pu l'être pendant l'entre-deux-guerres. Mais alors sur les questions politiques, c'est une sorte d'impensé, ça n'apparaît pas du tout dans les annonces que j'ai pu voir. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est questionné dans l'annonce. Ça peut être des discussions entre le gendre et le beau-père avant de signer le contrat à la fin du 19e siècle. Mais au moment où les hommes et les femmes, au début du 20e siècle, ont la responsabilité de se séduire mutuellement, comme de toute façon la chose publique, la chose politique revient aux hommes et la chose privée, la chose domestique revient aux femmes dans les représentations contemporaines, la question politique n'est pas du tout une question puisque monsieur aura le vote, monsieur aura un avis et madame suivra. Madame ne votera pas évidemment.
45, bien sûr. Donc on n'en est plus à souhaiter faire une sorte de grande agence nationale qui brasse les classes, mais au contraire, on va trouver des niches pour être efficace, si je vous comprends bien. Aujourd'hui, ça fait une différence considérable. Et puis, il y a l'idée que la science peut venir, ce n'était guère le cas sous la Révolution ou ensuite, venir au secours de ces âmes solitaires qui souhaitent s'apparier.
Oui, c'est une nouvelle forme de justification. C'est en fait la dernière étape de justification, celle par laquelle ce serait l'algorithme qui pourrait mieux vous marier et l'algorithme qui vous connaîtrait mieux que vous-même.
On est passé par les fiches perforées d'abord et maintenant on en est à l'informatique.
Voilà, à partir des années 50-60, des agences matrimoniales qui veulent se réinventer par rapport à l'ancien système où la marieuse est vue comme un système archaïque où justement on marie pour la dot et non pas pour le cœur, ces agences, elles, mise tout sur l'âme sœur. Et l'âme sœur algorithmique est quoi de plus...
Apparemment séduisant.
Absolument. Et surtout de plus matériellement clair que l'âme sœur, où on aurait deux fiches perforées qui correspondent tout à fait justement avec ce système des fiches perforées où les correspondances apparaissent en points lumineux.
Si les petits trous se retrouvent au même endroit, c'est bon signe. Pas trop tout de même, parce qu'on nous explique qu'il ne faut pas trop se ressembler non plus.
Alors effectivement, la ressemblance n'est pas l'assortiment.
Complément.
Le complément, la complémentarité et cet algorithme qui est pensé par les fiches perforées est un algorithme qui est très largement sous-tendu par des normes de genre très fortes. La complémentarité, c'est une manière de dire qu'on va laisser à madame les choses sentimentales, on va lui laisser tout le domaine domestique, et à monsieur, l'activité, évidemment, le domaine davantage public. Et alors ça, là-dessus, il y a une vraie continuité, et notamment, très récemment, il y a eu des études sur les algorithmes de Tinder et de Mythic qui montraient, en ouvrant la boîte noire de l'algorithme, que l'algorithme continuait à proposer davantage des hommes plus âgés aux femmes plus jeunes. En fait, cet algorithme, il est plutôt au bénéfice des hommes et il propose aussi des hommes moins bien positionnés socialement à des femmes mieux positionnées socialement.
Donc tout cela se fonde sur une efflorescence permanente des stéréotypes.
Oui, et il y a aussi une autre raison à cela, c'est que ces algorithmes, ils sont faits par des hommes, très majoritairement. C'est ce que montre Marie Bergström dans son ouvrage « Les lois de l'amour ».
Alors que dans les agences matrimoniales du 19e siècle, on a l'impression qu'il y a une certaine parité entre les directrices et les directeurs.
Oui, c'est une profession qui est assez mixte, mais dans les premiers temps du 19e siècle, au moment où elle se structure comme profession, ou du moins où elle essaye de se structurer comme profession, ce sont les hommes qui revendiquent le titre, qui revendiquent qu'il s'agisse d'une profession, alors que les femmes qui ont cette tradition justement d'entremetteuse et de marieuse, pour ne pas tomber sous le coup de la critique dont on a parlé, elles, au contraire, elles disent « on n'est pas des professionnels, on est des amis, on est des tantes, on est des confidentes ». Confidentes et amies qui se font rétribuer, bien sûr, par divers moyens.
Et pour clore cette conversation sur l'évolution des sites de rencontres, des agences matrimoniales de la Révolution à nos jours, Claire Lise Gaillard, j'ai le goût de vous demander si on a des chiffres, des statistiques qui permettraient de dire quelle importance elles ont pu avoir dans la vie matrimoniale de la nation.
Alors c'est quelque chose qui est tout à fait délicat à estimer parce que pour le 19e siècle, on n'a aucune enquête qui nous permette de le dire.
Une manière non statistique de s'interroger serait d'aller s'enquérir auprès de vos grands-parents, de nos grands-parents, de la manière dont ils se sont mariés.
Et ce serait sûrement très fructueux parce qu'en fait, ces histoires de rencontres, justement parce qu'il y a le tabou dont on a parlé, ne passent pas ou passent très difficilement dans la mémoire familiale. Mais lorsqu'on commence à en parler avec les années qui passent, on se rend compte, et j'en ai moi-même fait l'expérience en jetant plusieurs bouteilles à la mer pour cette thèse, on se rend compte qu'en fait, c'est une partie non négligeable de la population qui a eu affaire à ces annonces, soit pour chercher un conjoint et puis en se mariant différemment, soit effectivement en se mariant avec quelqu'un qu'on a rencontré par annonce. Et puis, il y a des enfants de ces annonces qui m'ont fait la grande confiance de me prêter des archives pour cette thèse. Et je serais très heureuse d'en rencontrer d'autres.
Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si notre conversation donnera le goût à telle ou telle auditrice, à tel ou tel auditeur, de faire fond sur l'aide des agences matrimoniales pour augmenter leur bonheur. Quoi qu'il en soit, j'ai eu plaisir à vous recevoir pour parler de ce beau sujet et j'ai plaisir à citer le titre de votre thèse que vous venez de soutenir et qui sera évidemment bientôt publié. Célibataire, épouserai jeune fille avec dot. Histoire du marché de la rencontre en France, 19e, 20e siècle. Vous avez donné le goût de vous lire en quelque sorte de façon anticipée en proposant des articles qui ont été très remarqués, par exemple dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine en 2020, dans les coulisses d'une agence matrimoniale, Paris 1842-1847. D'autres titres seront en ligne, comme vous savez. Je citerai également le livre de Marie Bergström, Les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couples et rencontres, au temps du numérique, aux éditions de la Découverte en 2019. Ce livre vous a été utile ?
Tout à fait, justement, parce que c'est grâce à ce livre qu'on voit la permanence des structures et la permanence de la domination masculine dans nos sociétés.
Mais le déclic qui vous a donné envie de vous attacher à ce sujet est forcément antérieur à 2019. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi?
C'est une découverte d'archives, en fait. En 2013, j'étais jeune masterante et je cherchais un sujet de mémoire. Je voulais travailler sur les questions de pudeur au 19e siècle. Et j'errais un petit peu dans les archives départementales du Rhône. J'ai feuilleté de la presse spécialisée. Je suis tombée sur un journal de 1925 qui s'appelle La Famille, revue littéraire pour favoriser le mariage. Et là, j'ai eu la surprise de découvrir des annonces du début du siècle et de découvrir qu'elles existaient. Et j'ai cherché à voir si d'autres avaient eu cette surprise avant moi. Et effectivement, il y avait eu Maurice Gardenne, Philippe Artière et Jean-François Lahaye qui avaient déjà identifié cette question-là. Et puis après, j'ai découvert Dominique Khalifa qui avait travaillé sur les agences matrimoniales. Je l'ai entendu à la radio et il appelait les jeunes chercheuses et chercheurs à s'emparer de ce sujet sur le temps long et sur une échelle importante. Et donc je me suis présentée à lui comme répondant à cet appel-là.
Le très regretté Dominique Khalifa, qui a été votre premier directeur de thèse et qui a effectivement donné le goût de ses recherches, puisqu'il a publié dans l'Histoire, en juin 2011, un article intitulé « L'invention des agences matrimoniales ». Vous pouvez, vous le savez, trouver les références des documents sonores utilisés sur notre site et également écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Frédéric Quérou et Célestin Navarro, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Delavaux.
Qu'il soit riche et qu'il soit jeune.